vous lui auriez donné, j'imagine, si Céline Dion dit « je parle à Paris Match », forcément, elle choisit son photographe et elle choisit ses photos, et j'imagine que...
Exactement, c'est des choses qui se décident, des choses qui se... mais là, bon, elle a fait un choix, ce qui est très bien pour Vogue, hein, bravo. C'est formidable pour eux. Ça fait longtemps qu'on attendait une vraie prise de parole, un vrai rendez-vous. Donc je crois que tout le monde est soulagé de la voir enfin s'exprimer.
En revanche, vous avez parlé de quelque chose, je ne suis pas sûr que les auditeurs soient au courant. Vous avez parlé d'une série qui arrive. C'est une série sur.
Alors, Amazon Prime fait un documentaire sur elle qui va être diffusé au mois de juin. Où Céline Dion revient elle-même sur toute sa maladie. Donc en gros, de septembre 2019 à aujourd'hui, entre le moment où elle remonte sur scène pour le Courage World Tour, et puis petit à petit les premiers symptômes, l'annulation des dates, le Covid et sa maladie. Voilà, donc ça c'est un truc qui est
c'est
très attendu.
C'est en une fois, c'est un one shot.
C'est pas clair si c'est un 52 minutes ou si c'est 3 fois 52 minutes. Mmh. Amazon communique très mollement sur le sujet, et voilà, tout le monde attend de pouvoir visionner ce récit de l'intérieur de son combat contre la maladie.
Est-ce que vous l'avez déjà rencontré, Céline Dion, Benjamin Lecage ?
Oui, c'est un grand, grand souvenir, parce que vous avez vraiment affaire à une star avec elle, c'était incroyable. Vous avez 2 minutes ?
Ah oui, au contraire, ça nous intéresse, parce que en fait, quand on voit Céline Dion, on la trouve tellement sympa, tellement gentille, tellement agréable, on se dit, on espère qu'elle est comme ça dans la vraie vie, comme elle est à l'antenne.
Alors, c'était une interview pour je ne sais plus quel album, et elle avait très peu de temps, donc je la retrouve dans les coulisses de la Star Academy, et elle me dit, on va faire l'interview entre la fin de ma prestation à la Star Academy et mon arrivée à l'hôtel. Donc, il y a 25 minutes de trajet. Elle parle, l'interview se passe super bien, elle est super drôle, super intéressante, et on arrive devant le George V, et elle me dit, tu sais, là, on a beaucoup parlé, mais tu vas voir ce que c'est qu'une star. Tu vas ouvrir la porte de la voiture, puis c'est toi qui vas sortir, les gens ne vont pas comprendre. Effectivement, je suis sorti de la voiture, j'ai vu une foule extrêmement déçue de me voir parce qu'ils attendaient Céline. Elle m'a fait un grand clin d'œil, genre voilà, c'est ça l'accueil d'une star. Et il était 2h du matin, il y avait peut-être 200 personnes qui l'attendaient. Elle a fini par sortir, elle a fait des photos, elle a signé des autographes. C'était une expérience assez dingue de voir combien les gens l'attendaient, combien les gens l'aimaient et combien elle jouait le jeu.
C'était en quelle année ça, Benjamin ?
Ça doit être 2010.
Ouais, donc il n'y avait peut-être pas encore de smartphone à l'époque, vous n'avez pas pris de photos.
Non, je ne l'ai pas la photo évidemment, hélas.
Ouais, c'est dommage. Et alors donc, elle avait fait cette interview avec vous dans la voiture, c'était la Star Academy était je crois dans le 18e à cette époque-là,
porte de la Chapelle.
Ouais, c'était oui, à la Plaine Saint-Denis, ouais. Donc entre la Plaine Saint-Denis et effectivement, vous étiez passé par le périph et puis vous étiez rentré Georges V. Et vous étiez tous les deux, j'imagine, à l'arrière de la voiture et elle vous
répondait. Comme dans un film.
Ouais, c'est ça.
Comme dans un film. Et puis elle parle de tout sans aucun problème. Moi, j'étais à l'époque jeune journaliste, donc j'étais un peu tremblant à l'idée de lui parler de sa vie privée. Elle y vient toute seule. Et puis tu sais, mon fils Sam, enfin, elle était très, vraiment très. Ouais.
Très sympa. Vous étiez à match,
oui,
c'était pour
sympa.
Match déjà.
Ah bah évidemment.
C'était
oui.
pour match. C'était ben pour ça fait match. Partie. Écoutez, ce métier, qu'est-ce qu'il restera de nos métiers souvent ? C'est les rencontres. C'est ça.
Oui.
Dans un journaliste. Et la chance que nous avons, c'est que par ce métier, nous pouvons approcher parfois des gens que nous n'approcherions sans doute pas dans la vraie vie, si j'ose dire. Et c'est vrai que je comprends Benjamin, parce que dans une vie de journaliste, des rencontres comme celle-là, votre émotion est intacte d'ailleurs, et vous en parlez c'était hier, et c'est des choses qu'on n'oublie jamais. Bah écoutez, c'est parfait. Et alors, vous avez gardé un contact dans ces cas-là direct avec elle, ou vous êtes obligé de passer par les attachés de presse, par tout un monde ?
Oh, vous connaissez le métier comme moi, Pascal, donc on essaye de tous les côtés.
Oui.
Donc oui, j'ai un contact avec son équipe au Canada, mais on essaye aussi par la maison de disques en France, par la plateforme d'Amazon. C'est-à-dire qu'il faut surabonder d'informations et de propositions pour être sûr que ça lui arrive directement. Mais avec nous, plus ou moins joué le jeu quand on a eu besoin, quand elle a fait des séries de concerts en France, elle nous a donné des choses. On a fait une séance photo dans un ascenseur à Bercy parce qu'elle avait que 2 minutes et on avait réussi à faire la couve avec ça. Donc elle savait, elle sait faire, elle sait donner.
Bah merci vraiment beaucoup, Benjamin.
Merci Pascal.
Je suis sûr qu'il y a une Céline Dio. En plus. Ça, doit, ça serait drôle que vous trouviez
une Céline Dio sur Facebook.
Et il est possible aussi. Je pense qu'il y a aussi des Céline Dion. Ça, oui. Ça doit exister, parce oui. que Dion, c'est un prénom, c'est un nom assez répandu.
Tout commun, oui.
Donc, je pense que ça serait intéressant un jour que vous fassiez une émission, on recevrait Céline Dion, Marcel Proust, vous voyez,
Molière, etc. Oui,
Molière, je suis pas sûr qu'il y ait un Molière. Il y avait une jeune femme qui était journaliste dans le temps à Europe qui s'appelait Hélène Molière.
Ah, voilà.
Mais ça, par exemple, je suis sûr qu'il y a un Marcel Proust. Il est peut-être, je sais pas, garagiste ou vendeur de primeurs.
C'est marrant.
donc, ça serait assez rigolo. Je trouve qu'on devrait faire une émission un jour comme ça avec ceux qui ont des patronymes, qui sont des homonymes.
Oui.
En fait, et voilà, je suis sûr qu'il y a, je le plains d'ailleurs, mais il doit avoir un Pascal Pro quelque part. Il doit en avoir quelques-uns.
Il doit avoir une vie, celui-ci.
Pascal Pro et vous, sur Europe 1.
Nouvelle campagne de sensibilisation contre les violences éducatives ordinaires, elle est lancée ce matin. On parle des fessées aux enfants, les gifles, les tapes sur les mains, les claques derrière la tête, tirer les oreilles, les punitions, le chantage. Selon un baromètre IFOP, 80% des parents admettent commettre au moins un de ces actes comme crier très fort. Oui, c'est pas non plus un acte de barbarie de crier très fort dans sa maison parce que son enfant n'est pas sage. Mettre l'enfant au coin, c'est pas non plus, me semble-t-il, la pire des punitions. 23% reconnaissent donner des fessées. Ça, il y a discussion. Pour l'association Stop Violence Éducative Ordinaire, un parent ayant subi des gifles ou des violences verbales quand il était petit sera plus enclin à en infliger à ses propres enfants. Qu'en pensez-vous ? Vous êtes parent, en avez-vous marre qu'on vous fasse la leçon ? Donc, avec qui sommes-nous ? On est d'abord, je crois, avec Céline, c'est bien cela ? Ou avec Sylvie ? Sylvie qui est une maman qui habite Versailles. Bonjour Sylvie.
Bonjour Pascal et bonjour à toute votre équipe.
Bonjour, combien d'enfants avez-vous ?
Alors, j'ai eu 6 enfants.
Ah, 6 enfants. Quel âge ont-ils ?
Oh, elles sont grandes maintenant. Alors, la première a 41 ans, ma deuxième, elle aurait 39 ans, j'en ai une de 37, 33, 30 et 25.
Mais vous nous aviez appelé, non ? Vous n'êtes pas...
Oui, je suis Sylvie avec 6 filles.
Oui, et avec un point commun, elles ne commencent pas par un K, je crois, vos filles ?
Non, elles ont toutes 5 lettres et elles finissent par un Y.
Voilà, oui, c'est ça. Effectivement. Mais je me souviens qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Bon, vous êtes quand même d'une autre époque, si vous me permettez, Sylvie,
oui,
forcément, puisque on n'était pas sensibilisé de la même manière il y a 40 ans, lorsque vous aviez des enfants en très jeune âge, à ce qui se dit aujourd'hui. Mais vous, quel type d'éducation avez-vous donné à vos filles ? Est-ce que vous avez été, par exemple, est-ce que vous avez tapé sur les mains ? Est-ce que vous avez donné des gifles ? Est-ce que vous avez tiré les oreilles ?
Non. Alors moi, j'ai pas eu besoin de corriger, comme on dit, mes enfants.
Mais c'était des filles, peut-être était-ce plus...
C'était des filles, alors non, mais...
C'est moins remuant.
Elles me regardaient, je les regardais d'une façon, elles avaient compris, donc il n'y avait pas besoin de les taper. Et puis, pour moi, taper un enfant sur un visage, c'est pas bien. On ne fait pas ça. On peut mettre une fessée sur les fesses. Une fessée, ça fait pas de mal. Je trouve pas ça violent. Par contre, taper un enfant sur le visage, non.
Non, je suis assez d'accord avec vous. Et effectivement, il y a des choses qui ne se font pas.
J'ai une expérience avec une expérience malheureuse avec une de mes filles, ma deuxième fille, qui un jour, donc elle avait 16 ans, elle m'a désobéi. Elle est sortie par la fenêtre de sa chambre pour rejoindre des copains. Et je vous raconte même pas comment je regrette de l'avoir corrigé ce jour-là quand je l'ai récupéré. Je regrette beaucoup, mais vraiment, parce que si je pouvais revenir en arrière, je le ferais pas.
Mais qu'est-ce que vous aviez fait ?
Je lui ai mis une correction parce qu'elle était sortie la nuit par la fenêtre de sa chambre et c'est sa sœur en rentrant qui m'a dit mais. Mais qui n'est pas là. J'ai dit, bah, si, elle est dans sa chambre, elle avait 16 ans. Et je lui ai mis... J'en tremble, parce qu'elle est décédée une semaine plus tard, mais pas à cause de ça, hein, parce qu'elle a redésobéi et qu'elle est montée dans une voiture et qu'elle est décédée. Et ma plus grande tristesse, c'est d'avoir une semaine avant mis une fessée à ma fille. Je ne l'avais jamais fait.
Mais je vous comprends.
Donc je dis aux parents, ne tapez pas vos enfants, ne les tapez pas, mettez-leur une fessée s'ils ont besoin, si sur le cul, sur les fesses. Nous on en a eu, moi j'en ai eu une claque sur les fesses, mais ne touchez pas le visage de vos enfants, ne tapez pas vos enfants, s'il vous plaît. C'est des enfants quoi. Moi pour moi un enfant, il n'y a pas plus beau au monde qu'un enfant.
C'était il y a combien de temps
C'était le 5 août 2000. Et je m'en souviendrai toujours.
Bah, évidemment, mais je vous comprends.
Parce qu'il me manque un bout de moi depuis. Bien sûr. Et même si ça n'a pas de rapport avec cette fessée que j'ai donnée pour la première fois à ma fille, ça reste gravé en moi. Et je m'en veux, mais je ne vous raconte même pas comment je m'en veux.
Mais je vous comprends. Je vous comprends. Le sentiment de culpabilité, il existe. Et il existe chez les gens, j'ai envie de dire, qui sont normaux, entre guillemets. Il n'y a que les psychopathes qui n'ont pas de sentiment de culpabilité ou des gens insensibles. On est tous comme vous. Et tout le monde aurait, je pense, la même réaction que vous, tous les gens, en tout cas, qui sont sensibles. Alors après, il faut pouvoir vivre avec cela. Et j'imagine que ce n'est pas facile tous les jours. J'imagine.
J'ai honte.
Alors n'ayez pas honte, bien sûr, parce que vous n'avez pas à avoir honte. Voilà, vous avez fait ce que vous pensiez devoir faire, et puis voilà, vous l'avez fait pour la protéger.
Oui,
vous l'avez fait pour que ça vous a sans doute coûté de le faire, mais vous l'avez fait parce que vous pensiez que ce serait efficace. Voilà pourquoi vous l'avez fait. Il n'y avait pas de jubilation à faire le mal. Donc vous n'avez pas à vous sentir honteuse et ni à culpabiliser, bien sûr, même si c'est la vie. On sait tous que dans des circonstances en plus si particulières, bah forcément, je vous comprends. Merci Céline, merci beaucoup. C'est vrai que la culpabilité, c'est quelque chose... C'est ce qu'on appelle le surmoi. D'ailleurs, ce serait intéressant qu'un psy décrypte ça. Il y a des gens qui n'ont aucune culpabilité sur rien. Donc ils font le mal, c'est jamais de leur faute, ils ne reconnaissent jamais aucune erreur de ce qu'ils ont fait. Et parfois d'ailleurs, ou des enfants, ou ceux qui ont vécu avec eux, ou même dans la vie professionnelle, ils n'attendraient qu'une chose, de dire « excuse-moi, je suis désolé ». Voilà. Et il y a des gens qui n'ont aucune culpabilité. Et puis des gens, entre guillemets, « normaux », si tant est que ce mot veuille dire quelque chose, bah effectivement, quand ils se sont mal conduits, ce qui peut tous nous arriver d'ailleurs, quand ils ont mal parlé à quelqu'un, etc., bah ils reviennent quelques heures après, le lendemain, dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle, et ils disent, voilà, excuse-moi, j'étais énervé, je suis désolé, les mots ont dépassé ma pensée. Ce qui d'ailleurs, et là c'est rarement vrai, parce que souvent, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'engueuler, souvent en engueulade tu dis des choses précisément que tu penses, et souvent les engueulades sont destructrices pour ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'engueuler. Moi j'ai aucun conseil à donner à personne, mais il ne faut pas s'engueuler. Parce qu'on dit des choses effectivement qui après, c'est compliqué, exactement, qui blessent, comme vous dites. Bon, il est 11h42, mais Céline, vraiment on l'embrasse et vraiment on lui donne...
Sylvie.
Oui, pardonnez-moi Céline. Sylvie, bien sûr. Sylvie, on l'embrasse et vraiment, on la comprend tellement. Nous sommes donc avec Céline Kellen. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes donc directrice générale de Stop Violence Éducative Ordinaire. Alors, la difficulté, c'est de préciser, de définir ce qu'est une violence avec un enfant. Et là, bonne chance. Parce que parfois, un regard, une humiliation, un mot... Tout cela est tellement subjectif, il y a des gens qui peuvent être humiliés, et d'ailleurs qui sont humiliés parce qu'ils ont affaire à des grands pervers qui ne disent rien, mais qui instaurent un rapport de très grande violence. Ça peut arriver et dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle, on le sait tous.
Oui, alors je vous remercie déjà de me donner la parole sur votre antenne, donner la parole à StopVO via ma personne. Nous, en fait, le terme violence éducative ordinaire, il existe depuis 2004. Il a été créé par le patron, en fait, le créateur de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, Monsieur Morel. Et puis, cet acronyme, en fait, hein, qu'on dit VO maintenant, est devenu un texte légal, puisqu'on l'a rappelé ce matin, hein, il y a une loi aujourd'hui, la loi du 10 juillet 2019, qui interdit les violences éducatives ordinaires. Donc dès lors qu'il est conceptualisé dans l'exposé des motifs de cette loi, c'est un terme désormais juridique. Donc ça ne nous aura pas échappé qu'il est constitué de trois mots. Le mot violence, donc on se réfère à la définition précise de l'OMS, hein, pour dire ce qu'est une violence, donc c'est un coup. C'est effectivement une notion qui peut être psychologique, hein, qui peut être verbale. Donc les violences éducatives ordinaires se classent dans ces trois catégories, les violences physiques, les violences psychologiques et les violences verbales. Et puis, donc on a le mot éducatif, parce que ce qui la différencie d'une autre violence sur un enfant, c'est qu'il y a un but, une intention de la part de l'adulte d'éduquer, donc pour son bien, donc de faire bien, mais ça n'en demeure pas moins que c'est une violence. Et puis enfin, on les dit ordinaires parce que elles sont, alors d'une part, ordinaires dans la temporalité. Souvent, quand un enfant les subit, c'est tous les jours de sa vie, voilà, tout au long de sa croissance.
Mais oui, j'entends bien, mais comment concrètement, est-ce que par exemple, dans tous les cas de figure, vous condamnez une fessée? Dans tous les cas. On ne touche pas un enfant.
Je ne condamne rien du tout, mais voilà. Ah oui, bien sûr.
Alors, si, ça m'intéresse quand même, votre point de vue. Si vous ne condamnez rien du tout, j'ai envie de dire à quoi ça sert.
Non, mais on est dans l'accompagnement, hein, si vous voulez. Voilà. Donc effectivement, on ne touche pas un enfant.
D'accord, y a pas de ça c'est la règle.
Voilà, c'est la règle, il n'y a pas de petite violence. Alors une fessée, j'entendais qu'on en parlait sur votre antenne, c'est pas pareil qu'une claque. Moi, je ne comprends pas, en fait, parce que moi, je suis aujourd'hui une adulte, hein, j'ai 48 ans. J'imagine un personnage qui fait les 3 mètres, hein, parce qu'on est quand même dans ce rapport un peu... de force entre un enfant tout petit qui fait 15 kilos et puis un adulte qui en fait entre 60 et 80. Si j'ai moi un espèce de grand truc qui fait 3 mètres et qui vient me frapper sur les fesses, oui, je vais avoir mal, ouais. Ouais, c'est un coup.
Oui, mais la malle, moi, si vous me permettez, hein, je trouve que la claque, je ne la mets pas au même niveau que la fessée. Il y a dans la claque quelque chose que je trouve de plus humiliant, qui peut d'ailleurs aussi effectivement faire plus mal, alors que la fessée, et on a eu des enfants tous, peut être plus légère ou je dirais symbolique. Il n'y a pas de claque symbolique, parce que quand vous prenez une main sur le visage... Alors ça, ce n'est que mon avis, hein, je vous assure.
Je vais vous poser une petite colle. Admettons que vous laissiez votre porte-monnaie sur la table et que je me trouve à côté et vous avez un billet de 100 euros et vous avez une pièce de 10 centimes. Je vais vous prendre votre billet de 100 euros, je vais vous voler, on est d'accord. Je vais vous prendre votre pièce de 10 centimes. Est-ce que je vous vole ?
Ben oui.
Ben voilà. Donc,
mais c'est pas la même chose quand même.
C'est pas la même chose, mais je vous ai quand même volé. Donc du coup, la fessée et la claque, selon vous, ne sont pas à mettre au même niveau. On a 100 euros d'un côté et 10 centimes.
Maintenant,
vous commettez une violence sur un enfant. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est pas moi qui le dessine. Hein. C'est une évidence. Qu'est-ce qu'une fessée ? C'est une main qui prend de l'élan et qui vient s'abattre sur le
bout d'un enfant et qui provoque violence. Une douleur. Non mais je ne vous dis pas que ce n'est pas une violence, madame.
Alors après,
je vous dis que ce n'est pas la même chose, qui est différent. Et, et voler 10 centimes, c'est pas la même chose que voler 100 euros, c'est à mes yeux. Mais en revanche, il y a des échelons maintenant. C'est pour ça que c'est intéressant de parler de cette discussion. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est votre position. Ouais. Donc votre position, c'est qu'on ne touche pas un enfant.
En donner des échelons, si vous voulez, c'est que ça vient quelque part cautionner un geste vis-à-vis de l'autre. Comme j'entendais la précédente auditrice qui disait, on ne tape pas un enfant, par contre, mettez-leur des fessées. Une fessée, vous savez, ça peut créer des hématomes, ça peut... Je ne suis pas médecin, je ne sais pas physiologiquement si une claque, c'est plus de dommages qu'une fessée.
Non, mais j'essaie toujours. Écoutez, moi je le sais pour le coup, puisqu'on a eu des enfants et j'ai, je sais quand on donne une fessée, effectivement il ne s'agit pas de laisser des hématomes, bien évidemment pas. Je ne pense pas que les parents qui nous écoutent aient un jour donné des fessées qui laissent des hématomes, sauf ceux effectivement qui maltraitent leurs enfants. En revanche, moi je parle, et c'est ça qui est intéressant, c'est pas évidemment les enfants qui maltraitent au quotidien, qui sont maltraités au quotidien. Ce qui est intéressant, c'est pour les parents qui nous écoutent et qui, une fois de temps en temps, ont, parce qu'ils étaient énervés, parce que l'enfant était particulièrement insupportable, sont arrivés avec une fessée légère, sur leur enfant. C'est ce cas-là, moi, qui m'intéresse.
Ouais. Mais je reste quand même à vous dire que moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une fessée légère, hein, du coup. Mais...
Bah, moi, alors, j'en ai reçu, chère madame, et je sais ce que c'est, donc je peux en parler, ouais. Puisque...
Bah, moi aussi, j'en ai parce reçu, que, parce je que... sais ce que c'est, mais je, et, voilà, très clairement,
en fait, ce qui m'ennuie dans notre conversation, c'est que vous mettez tout au même niveau. Vous voyez, c'est ça, moi, bah. Je pense que vous discréditez même votre, d'une certaine manière, votre action, puisque vous mettez tout au même niveau.
Alors,
et
tout,
il me semble que ça, non, les gens qui nous écoutent, ils disent, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas même chose que taper tous les jours. Il y a des enfants qui sont maltraités, qui sont tabassés tous les jours, matin, midi et soir. Et puis, il y en a d'autres qui ont reçu dans leur vie trois fessées.
Ouais,
une à 8 ans, une à 12 ans et une à 17 ans.
Pas à 17
ans, d'ailleurs. Mais c'est pas la même chose. C'est ça que je veux vous dire.
Vous savez, il y a 60 ans, le Martinet, était monnaie courante, tout le monde avait faisait usage du martinet.
Non, c'est pas vrai, madame. C'est pas vrai.
Normal,
non, c'est pas vrai. Il y a 60 ans, tout le monde n'avait pas un martinet. Ben non, moi j'avais. Il y a 60 ans.
Mais
non.
Mais
voyez, ce que vous dites, c'est pas vrai. Ce que vous dites, c'est pas vrai. Il y en avait, mais c'était pas. Non, mais madame, tout le monde, tous les parents. Moi j'ai 60 ans. Donc j'ai grandi dans le monde que vous dites. Tout le monde, il y en avait, mais c'était pas. Tout le monde n'avait pas un martinet. Les enfants n'étaient pas élevés en martinet en 70.
Je vous l'accorde, il y en avait.
Voilà.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a encore? Vous ne les trouvez pas, à part au rayon animal, certaines fois, mais vous ne les trouvez plus, en tout cas pour les enfants. Ce sont considérés comme des objets de torture. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le curseur de la tolérance à la violence sur les enfants se déplace. Alors après, là où je vous rejoins, c'est que il ne faut pas condamner les parents qui mettent des fessées. Ça, c'est une évidence. On accompagne ces personnes-là pour leur expliquer que justement, le curseur doit se déplacer. Mais les parents qui essaient de bien faire et qui ont ce qu'on peut appeler des sorties de route, qui, voilà, effectivement, la vie est dure, c'est difficile d'être parent, on est pris par le travail, on est pris par notre propre stress, on est pris par, je ne sais pas si vous avez vu la campagne qu'on lance aujourd'hui, mais cet héritage de violence transgénérationnelle qu'on ne peut pas éviter de faire si on n'a pas cette prise de conscience. Donc, effectivement, il ne faut absolument pas jeter la pierre aux parents, ça, c'est une évidence.
Bah, là encore, je ne suis pas d'accord avec vous, vous voyez, vraiment, on sera d'accord. Moi, je pense que les parents sont responsables. Donc, l'autorité, c'est les parents. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on discute, d'ailleurs.
Je suis d'accord.
Moi, j'en ai marre d'exclure la responsabilité des uns et des autres. Je suis désolé, les parents, ils sont responsables. Alors, ce qui est difficile de trouver, c'est le bon curseur entre l'autorité. Les enfants, effectivement, il faut les élever et les éduquer. Ça, c'est sûr.
On est d'accord.
Et comment on trouve le bon curseur entre l'intelligence, entre l'éducation intelligente, l'éducation qui accompagne, l'éducation bienveillante, l'éducation où le père est présent, la mère est présente, etc. Et en même temps, l'autorité. Et bien ça, chaque parent se pose la question et je pense que c'est la chose la plus difficile au monde.
C'est tout l'enjeu, et là je vous rejoins, vous m'avez mal comprise ou je me suis mal exprimée peut-être, mais non, on n'enlève absolument pas la responsabilité aux parents, c'est la culpabilité qu'il faut s'enlever. Ça sert à rien de s'autoflageller, d'aller sur la place publique et de prendre des branches d'ortie et de se flageller jusqu'à je ne sais voilà quelle heure pour dire je suis un mauvais parent, je suis un mauvais parent. Bon, en revanche, cette prise de conscience de dire c'est à moi de faire les choses, et on le dit dans l'éducation non violente, effectivement il y a toute cette partie de respect, déjà on ne touche pas au corps d'un enfant, que ce soit même une tape sur la main ou autre, on essaie en tout cas de faire en sorte que, et puis on a ce devoir de leur poser des limites, de leur donner des règles, de leur donner des valeurs qui sont propres à chaque famille.
Et alors comment on met en place la punition? S'il y a un domaine sur lequel il ne faut jamais donner de leçons, c'est l'éducation
c'est
des enfants.
Exactement.
Je vous assure, c'est vraiment la vie professionnelle à côté, c'est vraiment facile, mais on se pose en permanence des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Je l'ai puni de sortir
toujours
ce soir. Est-ce que j'ai bien fait de l'envoyer en Angleterre pendant un mois? Est-ce que j'ai bien fait de... Bon, c'est tous les parents se posent ces questions-là. Vous verrez, monsieur Boubouk.
Oui. Si un jour j'ai, oui,
mais
j'ai
oui
la chance d'avoir des enfants, j'espère.
Écoutez,
j'ai une femme avant, oui, quand même.
Est-ce une chance si de petits Boubouk ont comme père.
Mini Boubouk.
De mini Boubouk ont un jour comme père, monsieur Olivier. Je dis oui.
Oh, ça me fait plaisir.
Je dis oui.
Merci, monsieur.
Je dis oui.
Et vous serez leur parrain, si vous êtes encore de ce monde. Excusez-moi.
Je dis oui, ils auront la chance d'avoir un père, parce que vous savez pourquoi?
Dites-moi.
Parce que vous serez un père aimant.
Oh là
je
là
le devine.
Ça me touche beaucoup.
Parce qu'au fond, une fois qu'on a tout dit,
oui,
les enfants, il faut les aimer.
Ah
et c'est quoi les aimer? c'est simplement les regarder, s'occuper d'eux,
les accompagner.
C'est le Pascal Toudou, là ? C'est bon.
C'est pas le Pascal Toudou.
C'est pas le Pascal Rugueux.
Évidemment, quand vous allez... Moi, je jouais au foot quand j'étais gosse. C'était toujours les mêmes parents qui étaient le dimanche matin à 8h du matin en train de voir leurs enfants. Et il y avait des parents, tu ne les voyais pas de l'année.
Ils ne donnaient pas de temps.
Ouais. C'était toujours les mêmes pères et c'était toujours les mêmes mères qui étaient sur le petit terrain stabilisé où nous jouions et faisions des exploits dans le froid du dimanche matin. Maintenant, on va dire ce qu'il faut faire. Et notamment, comment faire appliquer l'autorité et quelles sont les sanctions, disons-le. Parce que j'imagine qu'il y a de la place, Céline Kellen, dans votre éducation idéale pour la sanction.
Alors oui, déjà, je me permets juste de dire, on donne absolument aucune méthode, on donne pas de leçons, on essaie juste de faire...
De leçons, non, mais de prise de conscience. Non,
ouais. Voilà, c'est ça. On appelle ça de la prise de conscience parce que chacun doit trouver sa forme d'éducation voilà, qui convienne à l'enfant et aux parents qu'on est. Hein. On est tous différents, les enfants sont tous différents, les parents aussi.
Bon, la
alors
sanction.
La question de la sanction, en effet, elle se pose et elle est très claire puisque dès lors que l'on parle de mettre des limites, qui je rappelle, je le disais avant, fait partie en fait de l'éducation non violente. Oui, il faut accompagner l'enfant avec des limites, des règles, effectivement, lui faire comprendre. Bah, dès lors que les limites sont franchies, bah, effectivement, on peut parler de sanctions. Donc c'est pas un gros mot, c'est pas voilà, c'est pour ça que l'éducation non violente, ce n'est pas du laxisme. Ce
j'entends
n'est pas
bien, mais précisément, voilà. Qu'est-ce que vous
alors,
faites ?
Alors précisément, eh ben déjà, la première chose à faire, c'est de se poser la question en tant qu'adulte, parce qu'on est quand même toujours en responsabilité l'adulte. Est-ce que la règle que j'ai posée à mon enfant a été bien comprise ? Est-ce qu'elle a été bien posée ? Alors je ne dis pas est-ce qu'elle a été juste ou pas, parce que c'est le parent qui décrète que cette règle elle est juste, mais peut-être aussi se poser cette question-là. Est-ce que c'était juste que je fasse ça ? Et si oui, est-ce que l'enfant l'a bien comprise ? Alors ça dépend de l'âge de l'enfant, bien évidemment. On ne va pas poser de règle à un enfant de 2 ans pareil qu'à un enfant de 18 ans, mais parfois, le flou et la transgression, elle vient simplement de là, parce que l'enfant n'avait pas compris ou c'était pas suffisamment clair que c'était une règle. Donc déjà, au préalable, je dirais avant qu'il y ait la transgression, se dire comment je fais pour...
Oui, mais alors, écoutez, on va prendre des exemples très simples. Un enfant, vous lui dites, la nuit, je ne souhaite pas que tu aies ton portable et ton ordinateur. Il a 9 ans, 10 ans, 11 ans. Bon, il se trouve qu'il se lève la nuit, que sais-je, et il récupère quand même son ordinateur et, ou son portable. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Moi, je sais, je pense, ce que je ferais.
Ouais.
Voilà ce que je ferais, je vous le dis d'abord, et puis après, vous me dites si c'est la bonne solution. Tu es privé de ton portable pendant un mois ou pendant 15 jours, etc. Voilà la sanction que je propose. Maintenant, est-ce que j'ai raison ou pas ? Je vous pose la question.
Ouais, alors, j'ai un peu de mal quand même, monsieur Pro, à vous dire vous avez raison, vous avez tort, parce qu'on n'est vraiment pas là-dedans.
Ben oui, mais vous êtes dans quoi, alors ? Si vous voulez en fait, ça sert à quoi, notre discussion ? Si vous dites rien, si vous dites pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc. En fait, on parle un peu dans le vide. Si vous me dites rien...
C'était tranchant.
Vous me dites ce qu'il faut pas faire, mais vous me dites pas ce qu'il faut faire. Donc, qu'est-ce que je fais ?
Effectivement, votre proposition est intéressante. Pourquoi ? Parce que la règle qui a été transgressée,
oui.
Ce que vous proposez comme sanction est directement lié à la règle qui
a été transgressée. Je trouve que c'est, t'auras pas de portable.
Vous lui diriez, t'as fait ça, et ben écoute, t'es condamné à aller, nettoyer la salle de bain de fond en comble pendant 2 heures, et
c'est ce qu'on faisait,
Là, c'est un problème, parce que en fait, il n'y a pas de message éducatif, en fait. L'acte de punition n'est pas du tout corrélé avec le problème, il n'y a pas d'acte de réparation. En fait, la sanction idéale est positive. D'ailleurs, le mot sanction, il ne vous aura pas échappé que ça peut être positif aussi, hein, puisque quand
bien
on
sûr.
Passe des études, on est sanctionné par un diplôme.
Bien
donc
sûr,
le mot
sûr.
Sanction n'est pas méchant, entre guillemets. Donc il faut effectivement que la sanction soit corrélée et réponde à un message éducatif par rapport à la règle qui
est transgressée. Et donc vous validez ma sanction ?
Vous le privez de portable. Alors, c'est peut-être pas comme ça qu'on formulerait les choses en éducation positive, mais peut-être. Alors,
oui, mais alors, vous feriez quoi ?
Mais alors,
dites-moi,
mais
moi, je veux bien progresser, mais il faut que vous me disiez quoi faire.
La même chose, monsieur Pro, laissez-moi parler, si vous voulez.
Bah oui, mais on n'arrive jamais à...
Au lieu de lui dire, t'as merdé, t'es privé de portable, vous lui dites. Lui dit, écoute, moi je t'avais posé cette règle-là, tu l'avais comprise, t'étais d'accord, tu t'es relevé, t'as été prendre ton portable. Moi, voilà ce que ça me fait en moi. Ça me provoque de la colère. parce que j'avais confiance en toi. Donc là, il y a quelque chose qui m'embête. Comment on peut faire la prochaine fois ? Moi, je n'ai pas d'autre solution que de te demander. Eh ben, la prochaine. Alors déjà, d'une part, je vais t'enlever tes moyens de communication parce que voilà, tu peux comprendre que moi, ça me met en colère et voilà. Et ensuite, ben, la prochaine fois, comment on peut faire ? Eh ben, le portable, tu vas me le donner dans ma chambre, etc. Ou alors, est-ce qu'on peut recommencer une fois et que je peux te faire confiance ? Voilà. Il faut que l'enfant, et les enfants, ils sont pas bêtes, ils comprennent en fait ces choses-là. Vous me parlez d'un exemple d'un enfant qui a 9 ans. Il peut comprendre qu'il a déçu son parent. Il peut comprendre. Alors, il faut aussi lui expliquer parce que les écrans, pourquoi vous ne voulez pas qu'il ait son ordinateur ? C'est pas une fantaisie de votre part, c'est parce que il faut qu'il dorme, les écrans c'est nocif, etc. Donc déjà l'emmener vers ces questions-là, tu vois, quand tu prends ton ordinateur et que tu dors pas, et ben tu manques de sommeil, regarde les écrans, ce que les gens y disent, ça fait de la lumière bleue, machin, à 9 ans, un enfant,
il écoutez, si vous lui dites tout ça, je vais finir par lui laisser son portable.
Non,
ça va me fatiguer. Je vais lui dire, bon, allez, garde-le ton portable, parce que si je dois faire une dissertation à chaque fois. Non, mais je vous taquine, Céline.
Voilà. Après, le truc, c'est que c'est vraiment un problème parce que souvent, bon, voilà, si c'est parce qu'il avait un copain à la maison et qu'il a voulu faire le mariole, etc.
Bon, vous
voilà.
Avez des enfants
après,
vous-même
Oui, j'ai deux grands-enfants, oui. Bon. Et 18 ans bientôt.
Bon, est-ce que Émilie Dez veut dire un mot ? Parce qu'il n'y a que moi qui parle et puis moi, je me connais. Je suis un peu provocateur avec Céline, donc je l'ennuie un peu.
Moi, je pense que ma fille de 7 ans, si je lui fais effectivement une dissertation, elle aura arrêté d'écouter à la moitié et ça, c'est trop long. Alors, elle n'est pas assez attentive.
Vous n'avez pas besoin de faire une dissertation. Hein. Après, voilà, l'idée, c'est déjà d'une part de lui parler quand elle est réceptive, pas quand elle est en train de faire quelque chose, justement, qu'elle est dans un temps d'écran que vous l'avez octroyé en disant bah tiens j'aimerais que tu coupes ton écran deux minutes machin, c'est à vous aussi de faire quand c'est réceptif.
Céline,
et puis de dire bah là tu me... ouais, ça peut être très court
le
hein, là,
message
tu m'as déçu, j'avais confiance en toi. Moi je peux plus je peux plus avoir confiance en toi, les écrans c'est nocif parce que ça fait ça et puis voilà
le message est passé et l'important c'est de ne pas frapper évidemment ses enfants, c'est un minimum, mais vous savez les choses parfois elles peuvent être très violentes, c'est-à-dire que un enfant de 12 ans qui a un match très important de sport et qui depuis des semaines dit à son père ou à sa mère je voudrais que tu sois là parce que on est deuxième et on joue contre le premier, et que si ce jour-là le père n'est pas là, il est possible que 35 ans plus tard l'enfant s'en souvienne encore. C'est pour ça que c'est tellement subjectif ces choses-là, c'est ce qui est violent ou ce qui ne l'est pas.
On porte de l'attention à son enfant.
Mais bien
et on
sûr.
Crée. Alors là, c'est quelque chose. Vous parliez tout à l'heure que ce serait intéressant d'avoir un psychologue. Je vous rejoins.
Oui.
Parce que les psychologues parlent de cette notion d'attachement, qui est une notion très très forte et qui est complètement existante. Hein. Ce n'est pas une fantaisie de notre part ou des psychologues. C'est-à-dire que lorsqu'on porte attention à son enfant de façon positive, bien évidemment, on crée ce qu'on appelle un lien d'attachement sécure. Donc en fait, voilà. Et cet attachement, il se fait effectivement par l'éducation, mais il se fait aussi par l'attention qu'on porte à son enfant.
Évidemment.
Et oui, c'est une violence, ce que vous me dites.
C'est une violence.
C'est une violence qu'en plus, je connais personnellement, donc elle fait écho à ma propre histoire, parce que en effet, dès lors qu'il y a une forme de négligence.
Négligence, exactement.
Vous dites qu'on pose des mots forts sur les choses. Là,
non, ça, vous avez parfaitement raison, de négligence.
Et voilà, c'est une négligence, parce que les besoins, voilà, c'est ça aussi, les besoins des enfants doivent être entendus, en fait. Et puis là, voilà, c'est vrai que c'est difficile
vous
pour l'enfant
raison.
De se dire, en fait, je suis pas...
Merci.
Je n'existe pas, quoi.
Et il y a effectivement, je n'existe pas. Vous avez parfaitement raison. Il y a des enfants, l'autre jour, j'entendais un père qui... Alors, il culpabilisait, il disait, j'étais indifférent à mes enfants. Vous vous rendez compte ? C'est fou de dire ça. Ça m'a étonné, il disait, ouais, j'étais indifférent.
C'est dur.
Mais bien sûr, et en fait, c'est toujours pareil. Les enfants, les grandes personnes aussi, sans doute, mais les enfants... Il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est de faire attention à eux. Et ça ne veut rien dire d'aimer, en fait. Mais en revanche, faire les devoirs le soir avec, les accompagner. Mais si tu n'as pas de plaisir, c'est ça qui est terrible. Si tu n'as pas de plaisir avec ton enfant, les gens qui n'ont pas de plaisir à être avec leurs enfants préfèrent jouer aux cartes que voir leur fils en train de jouer au football l'après-midi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Fais autre chose. Fais pas d'enfant dans ces cas-là. Vous voyez ? C'est comme les gens. Alors, les gens qui vont dans les clubs, ça, j'adore ça.
Les clubs ?
Un club l'été.
Ah,
on va citer Club Med, Club Bidule, etc.
Ah d'accord.
Tu leur dis pourquoi tu vas au Club Med ? Ah parce que
Mes enfants, ils sont au club, au mini-club toute la journée. Ça fait pas d'enfants, vieux. Si tu veux pas faire tes enfants, ça sera plus simple, n'en fais pas. Ah, ça, c'est drôle, mais bon. Allez, monsieur Fabrice, là, comment ça va en ce moment? J'ai l'impression que de votre retour de Morlaix, là, je sais pas ce qui se passe.
Ah non, si, ça va très bien.
On vous entend plus.
Ouais,
ah
bah si. Il y a un truc.
Que se passe-t-il, selon Olivier?
Mais non, mais je ne sais pas ce qui se passe.
Moi, je pense qu'il y a des sentiments qui sont nés entre lui et Géraldine.
Mais,
voilà,
mais
une
n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes?
Mais attendez, mais Géraldine, mais vous êtes gonflé.
Oh, je pense qu'ils n'osent pas l'avouer.
Notre invité, Pascal Maître-Antoine Réglé.
Exactement. Bonjour, monsieur Réglé.
Bonjour, monsieur Pro.
Et merci d'être avec nous. Vous publiez Drame de la route, combat contre l'injustice pour ne pas être victime deux fois aux éditions Hugo Doc. Et vous racontez 10 histoires aux conséquences dramatiques de ces parents qui perdent leur bébé à naître sur le chemin de la maternité, cette maman qui doit débrancher son enfant, ces deux hommes qui sont amputés, cette jeune fille de 15 ans qui va devenir paraplégique. Toutes ces histoires, évidemment, nous saisissent. Vous dénoncez une justice trop lente, peu sévère, mais aussi le comportement de certains assureurs entre la culpabilisation des victimes, une indemnisation au rabais. Vous pouvez évidemment nous appeler jusqu'à 12h50 pour vous interroger. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quand même qu'en 40 ans, il y a moins d'accidents dramatiques sur la route qu'il y avait dans les années 80?
Oui, bien sûr, et heureusement qu'il y en a moins. Toute la politique de prévention, de répression a porté ses fruits pendant longtemps. Alors la prévention et la répression marchent toujours ensemble. Depuis 40 ans, on peut citer quoi? La ceinture de sécurité, à l'avant et à l'arrière. On peut aussi citer l'état des routes qui s'est amélioré, même si maintenant il se dégrade. On peut citer toutes les politiques de bleu, c'est-à-dire on va mettre des gendarmes à tous les coins de rue, toujours un peu plus, et les gens en ont eu peur pendant très longtemps. Il y a eu les radars avec le président Chirac en 2000 qui a fait baisser significativement la mortalité routière. Mais là, depuis 10 ans, on stagne autour des 3000 morts et puis des 200 000 personnes blessées, dont 16 000 par an qui trouvent le handicap. Et force est de constater que malgré des lois voté de manière rapide, avec des changements de mots qui changent pas finalement grand-chose, eh ben ça fait 10 ans qu'on stagne et qu'on n'avance plus. Et les familles que j'ai défendues, que j'ai rencontrées, vous pouvez leur dire qu'avant il y avait plus de morts, ça va pas beaucoup les soulager.
Parce que vous avez toujours défendu des victimes.
Moi, je défends les deux. J'ai commencé en tant que pénaliste en défendant des auteurs. J'en défends encore. Et depuis quelques années, c'est vrai, j'accompagne des victimes parce que cela me plaît sur le plan, évidemment, personnel, mais aussi parce que je me suis rendu compte qu'elles étaient victimes deux fois. C'est-à-dire qu'après l'accident, elles sont également victimes de tout ce que vous avez dénoncé et qui se trouve dans le livre.
À force de les côtoyer, des victimes de la route, de les assister, de les écouter, de les défendre et de les représenter, j'ai entendu qu'elles souffraient d'un manque de reconnaissance et de considération, d'une absence de protection et d'accompagnement, des méthodes douteuses de certains assurances.
Certaines assurances, pas toutes, je ne veux pas faire de généralité, mais c'est vrai que pour beaucoup, lorsqu'il y a l'accident, l'assureur qui doit indemniser la victime ou la famille de la victime va tout faire pour culpabiliser ou la famille ou la victime en disant « Eh ben, on va regarder si la victime ou les victimes n'ont pas une part de responsabilité dans l'accident. Et si on arrive, assureur, à prouver qu'il y a 20%, 30% de responsabilité, ce sera alors 20% et 30% qu'on vous donnera en moins. Moi, aujourd'hui, je veux que ce soit beaucoup plus difficile pour les assureurs de faire cela. Il faut pour ça changer la loi Badinter, qui régit depuis 85 la loi sur les accidents de la route. Et il faut aussi responsabiliser ces assurances et leur dire que l'on ne peut plus aujourd'hui continuer à faire de l'argent sur le dos des victimes.
Et puis il y a quelque chose parfois qui peut choquer, des choses qui peuvent choquer dans l'affaire Aleno par exemple, et vous connaissez évidemment ce chef Aleno dont le fils le 8 mai au soir dans le 7e arrondissement a été tué par un chauffard qui était sans doute ivre avec une voiture qui allait au-delà de la vitesse réglementée. Je crois que ce chauffard et ce tueur d'enfants, aujourd'hui, il n'est pas sous les verrous.
Non, il l'a été pendant quelques mois.
Il a été pendant quelques mois, il sera jugé.
Certainement.
Et il est dehors. Donc, ce sentiment de colère et peut-être d'injustice, si vous êtes le père, Yannick Aleno, le père que chacun connaît, que vous travaillez matin, midi et soir dans vos restaurants, et que vous savez que l'homme qui a tué votre fils et dehors, évidemment que vous éprouvez un sentiment de colère.
Oui, alors, L'affaire Alenos, ça m'a conduit, moi, à avoir une réflexion un peu plus juridique, un peu plus profonde, en essayant de me départir de l'émotion que je ressens, évidemment, même si je ne ressentirai jamais ce que lui ressent. Est-ce que le code de procédure pénale prévoit de retenir de manière provisoire cet auteur présumé, encore présumé innocent, plus d'un an? La réponse est non. Le code de procédure pénale, en matière délictuelle, en matière correctionnelle, puisqu'on parle d'un délit, c'est un an maximum renouvelable, donc tous les 4 mois. Que faut-il changer? Bah, la loi, mais le législateur, Monsieur Darmanin, souvent, Monsieur Dupond-Moretti, viennent devant les caméras dire leur émotion, leur scandale à voir ces comportements-là, et jamais rien n'est fait pour allonger, par exemple, le délai de détention provisoire. Ce que j'ai retenu aussi de l'affaire Alenos, c'est ce que dénonçait le chef Alenos dès le départ, maintenant il en parle un peu moins, c'est le manque d'accompagnement psychologique. Ça a été la raison d'être de la loi sur l'homicide routier au départ, dans lequel le chef Alenos est très impliqué. Et puis lorsqu'il a fallu venir vendre cette loi votée à l'Assemblée nationale, le chef Alenos et les auteurs de la loi ne parlent plus de l'accompagnement psychologique. Pourquoi ? Donc, que le chef Alenos souffre, je l'entends, je souffre avec lui, mais je veux qu'il revienne à son combat premier, oui, c'est l'accompagnement psychologique.
Mais moi, je l'entendais comme vous, le chef Alenos, lorsqu'il parlait de l'accompagnement psychologique, mais que voulez-vous faire lorsqu'il est 4 heures du matin, c'est ce qu'il racontait, que votre fils est mort et que vous vous retrouvez dans une pièce, je crois que c'était à l'hôpital ou à l'Institut médico-légal.
Oui, à l'IML, l'Institut. Bon, on fait rien alors, Pascal Praud.
Mais
je vous connais pas aussi fataliste.
Mais non, mais ce que je veux vous dire, c'est que qu'est-ce que ça change qu'il y ait quelqu'un avec vous à ce moment-là? Vous êtes dans un tel état de sidération, de tristesse. Je sais pas, vous l'avez dit d'ailleurs au début de la conversation, comment on peut réagir dans ces cas-là, mais je ne vois pas en quoi une personne présente dans la pièce pourrait modifier les choses. Mais peut-être me trompe. Je voudrais, sur le plan juridique, aujourd'hui, vous tuez quelqu'un dans un accident de voiture alors que vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue. C'est qualifié comment juridiquement ?
Ça s'appelle encore un homicide involontaire qui va devenir homicide routier et on encourt aujourd'hui 7 ans d'emprisonnement ferme s'il y a une circonstance aggravante, 10 s'il y en a 2.
Bon. Et cet homicide involontaire, homicide routier, ça voudrait dire qu'on pourrait le transformer en homicide volontaire ?
Non, c'est un homicide quasi volontaire, c'est-à-dire il y a un comportement à la base qui est volontaire, qui est risqué, la prise de stupéfiants, la prise d'alcool, qui va déboucher sur un accident qu'on n'a pas souhaité, mais dont on n'a rien fait pour l'éviter.
Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Quel est le juriste que vous êtes ? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait l'appeler homicide volontaire ?
Le problème du juriste, c'est que dès lors qu'il se met à parler de droit, on a l'impression que son cœur ne bat plus, alors qu'évidemment que si, mais en tant que juriste, on ne peut pas considérer qu'il y a un comportement volontaire avec une volonté de tuer. Donc il ne peut pas y avoir d'homicide volontaire en ce que l'intention de tuer n'existe pas. Cependant, il y a une qualification dans le code pénal, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, qui répond un peu à la même logique, c'est l'affaire de Bertrand Cantat, Marie Trintignant notamment. Ça, c'est un crime. On irait donc à la cour d'assises. Et l'idée, ce serait sur le même plan, peut-être, de voir si on peut pas aller copier-coller cette infraction-là et la faire et en faire un homicide routier plus. Pour le moment, ça a été évoqué à l'Assemblée nationale, ça a été rejeté. L'homicide routier qui vient au vote final à l'Assemblée nationale restera un délit et ne sera donc pas criminalisé.
C'est étonnant parce que j'ai l'impression que c'est une demande, moi, du public, des Français, de sanctionner fortement ceux qui sont des grands délinquants routiers.
Oui, je l'entends aussi, et les victimes dans le livre le disent. Alors, elles font une différence entre ceux qui ont eu un accident sans alcool, sans stupéfiants, et puis ceux où, effectivement, il y a l'alcool et des stupéfiants. J'entends aussi, moi, cette lame de fond répressive qui consiste à dire qu'il faut emprisonner véritablement ceux qui ont occasionné la mort. Alors, quelle solution on a ?
Il y a un désir de punir.
Mais quelle solution on a ? On oblige les juges ? Moi, pardon, j'ai pas de super relation avec les magistrats, mais jamais vous m'entendrez de dire qu'il faut contraindre les juges. Donc, on peut pas les contraindre. Et s'ils ne veulent pas appliquer des lois, soit-elles plus sévères, on ne le fera pas. Est-ce que le législateur doit criminaliser ? Pour le moment, il ne le fait pas. Si on le fait, on ira devant les cours d'assises et alors on aura les jurés populaires, ce sera très bien et à mon avis les peines seront exemplaires. Le vrai problème, c'est un autre souci qui est décrit dans le livre, c'est la lenteur. C'est-à-dire que plus on va criminaliser des comportements, plus les instructions seront longues et il faudra alors 5 ou 6 ans pour juger ce qui est inadmissible.
Bon, Salima est avec nous et bonjour Salima, et vous vouliez nous donner votre témoignage.
Bonjour, oui, effectivement, donc suite à votre interview concernant les accidents de la route, les peines et les assurances, moi je voulais vous donner un petit peu mon histoire, même si je pense que ça ne changera rien au niveau juridique, mais pour alerter sur le processus. Donc moi, il y a bientôt 4 ans, fin mai 2020, on a perdu mon frère qui avait 33 ans, à cause d'un délinquant de la route, j'insiste sur le mot délinquant. Cette personne avait récupéré mon frère avec un copain chez ma mère pour aller faire un tour. Ils ont été au McDo et faire un tour. Sauf que cette personne était sous l'emprise d'alcool et de ballons. Vous savez, les ballons qui gonflent, la chose super tendance, mais qui, je pense, a un impact sur un comportement quand on roule. À l'hélium, je crois que c'est gonflé. Il n'avait pas de permis, donc pas d'assurance. Et c'était une voiture qui lui était prêtée par un autre ami. Cette personne roulait sur une route fin mai, il faisait très beau, il n'y avait aucun problème. Il a perdu le contrôle du véhicule, mon frère a été projeté. Et au lieu d'appeler les pompiers ou de voir quoi faire, il s'est sauvé. Cette personne s'est sauvée. Donc c'est le passager qui a pris la peine d'appeler les secours et de rester près de mon frère. Et cette personne est revenue 2 jours après au commissariat, prétextant de devoir saluer sa famille avant d'être incarcérée. Alors que je pense que c'est le temps qu'il n'y ait plus d'alcool dans le sang, plus rien. Moi, mon frère est parti à 33 ans, donc. Ensuite, nous, on a pris un avocat, on a quand même été au procès, on a tout fait pour défendre. Il a été condamné à 1 an à ferme et 1 an avec sursis. D'ailleurs, mon avocat, pour nous, c'était peu, mais il nous avait expliqué que dans ces cas-là, c'est tellement rare qu'il y ait du ferme et qu'il y ait 1 an. Mais sauf qu'il est sorti au bout de 5 mois. Il n'a fait que 5 mois. Et entre l'accident et le procès, il n'a pas été incarcéré. Il a repoussé le procès 2 fois. Apparemment, il avait le Covid, donc il ne pouvait pas venir. Parce qu'il a été jugé qu'en octobre 2021, et mon frère est parti en mai 2020. Et lors du procès, ma sœur et moi avons été, parce que ma mère, bien sûr, ne sera plus jamais la même et ne voulait pas le confronter. Quand on s'est exprimé, en prétextant qu'il y avait des gravillons, enfin des choses vraiment futiles, en expliquant que ce n'était pas un délit de fuite, mais qu'il voulait vraiment être auprès de sa mère qui est malade avant d'être incarcérée. Enfin bref, des excuses très stupides pour nous. Et en fait, quand ma sœur et moi, nous avons fait notre témoignage, son avocat l'a repris et là, il a eu un petit mot pour la famille. Mais bon.
Célima, merci.
Pour moi, il n'y a pas trop de justice pour les accidents de la route. C'est très mal pénalisé. Pour moi, c'est des homicides volontaires. C'est comme une personne sous l'emprise de la colère qui tape et qui tue quelqu'un. Pour moi, c'est des meurtres. Et tant qu'il n'y aura rien, les accidents continueront. Et en fait, on peut impunément ôter la vie à quelqu'un. Et vu que c'est un accident de la route, ben, en fait, les peines, elles sont vraiment...
Merci de votre témoignage et merci de votre courage de témoigner. Et évidemment, ce que vous avez vécu est dramatique. Mais vous voyez, ce témoignage, j'imagine, mais il rejoint d'ailleurs ceux qui sont dans le livre, Maître Réglet. Effectivement, lorsqu'on est victime, on a le sentiment qu'on est injustement frappé 2 fois.
Oui, la première fois par l'accident, la deuxième fois par les assurances, on l'a dit, par la justice qui est trop lente, par la justice qui est clémente. Les victimes font une proposition dans le livre qui est une proposition que je trouve bonne sur le plan de la prévention et de la répression, c'est de dire si les juges n'enferment pas les gens, libre à eux, tant que la loi ne change pas. Nous proposons, nous, lorsqu'il y a un accident avec stup ou alcool, que ce soit celui qui l'a causé, qui doivent payer les dommages et intérêts à la victime après que l'assurance aura avancé les fonds à cette dernière. Alors, vous me direz, ça apporte quoi à la famille ? Rien. Ça apporte que lorsque vous prenez un verre de trop ou lorsque vous prenez un joint et que vous allez prendre le volant, si vous n'avez pas peur de la prison, vous allez avoir peur très égoïstement d'être ruiné à vie parce que ce sont des centaines de milliers d'euros, parfois des millions d'euros qui doivent être remboursés. On l'a vu avec les radars en 2000. L'effet Chirac, l'effet des radars, de taper au porte-monnaie, ça a quand même pas mal marché, même si ça nous ennuie tous. Et aujourd'hui, les gens qui n'ont peur ni de la prison, ni de perdre leur permis de conduire, je crois qu'ils auront peur d'être ruinés. Et s'ils n'ont pas peur, leur conjoint ou leur conjointe qui sera à côté ou leurs enfants majeurs qui seront avec eux dans la voiture, certainement auront un effet dissuasif parce qu'ils n'auront pas envie de voir leur père ou leur mère être ruinés à vie et eux avec.
Vous évoquez également l'affaire Palmade dans votre livre et quel enseignement tirez-vous de l'affaire Palmade et notamment cet enfant Annette qui n'existe pas tant qu'il n'a pas respiré en dehors du ventre de la mère.
L'enseignement que l'on en tire pour le moment, c'est que le pouvoir politique a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé et n'a toujours rien fait. Pendant des semaines, on a entendu M. Darmanin, M. Dupond-Moretti venir nous dire que ça allait changer. Rien n'a changé. On a changé les mots avec l'homicide routier, mais on n'a toujours pas accordé ce que la Cour de cassation n'accorde pas, c'est-à-dire un statut à l'enfant à naître. Mmh. Alors, dans l'affaire d'Angélique et Valentin, qui ouvre le livre et qui correspond au dossier Palmade, en ce qu'un enfant mort in utero n'a pas connu la vie, eh bien, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui étaient à 2 heures de naître à la maternité. Aujourd'hui, ils ne sont pas victimes d'un homicide involontaire ou d'un homicide routier. Ils ne sont rien pour le droit pénal. Et cela, le législateur ne veut pas en parler. Il ne veut pas en parler parce qu'il a eu peur pendant longtemps que cela remette en cause l'IVG. On est très tranquille là-dessus. À partir du moment où on dit avant 22 semaines, il n'y a pas de reconnaissance du fœtus, après 22 semaines, il y a une reconnaissance du fœtus et l'IVG étant en plus constitutionnalisé, on peut régler le problème. Alors j'ai deux députés qui travaillent avec moi pour que cela avance. C'est madame la députée Violette Spielboot, députée du Nord, qui est très 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 en pointe sur ce combat avec moi et qui, à chaque page du livre, me dit qu'elle m'emmènera voir Éric Dupond-Moretti pour que ça bouge. Et puis Damien Di Filippo, député de Moselle, qui depuis très longtemps veut que cela bouge. Alors moi, ce que je veux vous dire pour terminer la réponse à votre question, c'est que ça parle beaucoup, mais ça agit peu. Et venir faire une loi sur l'homicide routier pour changer des mots et aggraver des peines qui de toute façon ne seront pas appliquées, ça s'appelle trahir les victimes. Et je suis extrêmement chagriné que ceux qui ont porté ce texte aient convaincu le chef Aleno, qui finalement appelle à voter une loi qui trahit les victimes.
Je vous propose vraiment de le lire, ce livre, parce qu'il est extrêmement intéressant. Et puis, je vous écoute depuis tout à l'heure. Vous écrivez d'ailleurs page 201. Jusqu'à l'âge de 15 ans, je désirais être journaliste. Eh bien, il y a quelque chose, en tout cas, qui aurait fait que vous auriez pu être un excellent journaliste à la radio. Je pense que c'est votre voix. Vous avez une voix et je pense qu'on ne doit pas être les premiers à vous le dire.
Je la dois à mon père qui a fait 30 ans de radio, Philippe Réglet, sur une radio concurrente, Bleue, pour ne pas la citer.
Mais c'est vrai que vous avez un timbre de voix qui aurait fait un excellent journaliste, bien sûr.
J'ai encore l'espoir d'y arriver.
Un exemple d'affaire octobre 2014, perdre son conjoint, parce qu'il y a beaucoup d'affaires dans ce livre, même s'il nous reste juste une minute, mais c'est effectivement déchirant lorsque Sophie, la femme de Jean, dit « Personne n'est préparé à regarder ses enfants dans les yeux pour leur dire « Papa est mort ». Je n'ai que très peu de souvenirs de cette scène. Je n'ai que des flashs. C'est le pire moment de ma vie. Les enfants sont assis sur le canapé quand je leur dis « Votre père est mort ». Je me rappelle des hurlements de Joachim, ou Joachim, je ne sais pas, Joachim, qui part s'enfermer dans sa chambre. Je me souviens de leurs regards, des larmes, des cris, de l'infinie douleur que leur être exprime alors. Valentine a 18 mois.
Ça se passe de commentaires.
Merci d'être venu avec nous, Monsieur Réglet. Je rappelle effectivement ce livre aux éditions Hugo Doc, Drame de la route, combat contre l'injustice pour ne pas être victime deux fois. Je ne sais pas si vous faites attention vous-même tous lorsque vous prenez aujourd'hui la route. Est-ce que vous êtes vigilant si vous avez bu un verre, deux verres? Alors un verre, je pense que ça peut aller. Deux, trois verres, évidemment, on est déjà...
On prend pas le volant.
On est en difficulté forcément sur ses réflexes, sur sa concentration et n'est pas ce problème-là, Monsieur Boubouk, puisque vous ne conduisez pas.
Ah non plus. C'est mieux pour la France que je ne conduis plus, que je ne conduise plus.
Europe 1. Le grand débrief de Pascal Prouille.
Le débrief de Monsieur Tessier.
Démarrons par une musique d'amour, DJ Fab. Et vous savez, dans la vie, j'aime m'inspirer de grands philosophes.
Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
Oui, une consigne suivie à la lettre dans l'émission.
Ce métier, qu'est-ce qu'il restera de nos métiers, souvent? C'est les rencontres.
Et oui, les rencontres. Et la plus belle des rencontres, c'est celle entre Gégé et DJ Fab.
Vous êtes bien à Morlaix, n'est-ce pas, Géraldine?
Je t'ai pas vu. Tu m'as raconté ça.
Mais on sait qu'il s'est passé quelque chose, on en est sûr. Une autre belle rencontre a eu lieu il y a quelques années entre Monsieur Boubouk et moi.
Moi, je suis la muse de Laurent Tessier, moi.
La muse?
La muse, oui.
Et donc, il a pris un mot. Il a la muse, maintenant.
Coucou, ma muse, en face de
Coucou.
Moi. Bon, une rencontre n'a pas eu lieu à 10h58 au moment du passage antenne avec les amis de Culture Média. Voilà.
Et vous pouvez appeler l'ami Pascal Pro. Bonjour Pascal.
S'il est là.
Qui n'est pas encore là.
Nous cherchons tous les jours.
Ah, j'adore.
Oui, à cette heure-là, nous ne faisons pas les derniers réglages de l'émission. Nous jouons à une petite partie de cache-cache dans les bureaux d'Europe 1. Et ça marche pour Pascal.
Mais oui, mais tous les jours, on lui court après. On n'a pas le
droit. Dans
et ce que
couloirs.
J'adore, c'est là où il est très fort, Pascal, c'est qu'il est capable de vous donner l'impression qu'il a écouté l'émission.
Bien sûr.
Oui, ouais, sauf qu'il a fallu faire un petit sprint pour arriver jusqu'au studio.
Pascal, reprenez votre souffle.
Ouais. Respirez.
Là, je fais bien mon âge.
Je vous amène de la ventoline.
Je vous assure, là, je suis un peu... Je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à 13h.
Oh, non.
Et notre directeur d'antenne, Alain Liberti, a de l'humour et sait s'adapter à l'équipe après votre arrivée. Pascal, un peu essoufflé. C'était quoi la première pub?
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul.
Quand même, drôle d'humour, monsieur Liberti. Bon, la rencontre aussi. La rencontre avec l'information, l'actualité. Il nous faut 5 heures pour vous donner le meilleur.
Personne n'est médecin, sauf ceux qui ont fait médecine. C'est intéressant.
C'est une belle phrase.
C'était vraiment très intéressant.
Mais aussi, il nous faut 5 heures pour réfléchir au thème du jour.
Est-ce que vous faites parfois des photos de votre épouse un peu sexy?
Oh là, muy caliente, augmentation de la température, on veut la réponse de Thierry l'auditeur.
Ça peut arriver de prendre sa femme dans des positions suggestives. Oh. Ça peut arriver. Ouf. Pourquoi
ben moi,
pas
c'est curieux. Je sais pas ce que vous avez dans votre smartphone. Non, moi,
Une rencontre qui a bien eu lieu, par contre, c'est entre nous et le chien de Sophie d'avant. Une rencontre qui nous a tous marqué.
J'ai eu une affaire au chien de Sophie.
C'est pas moi. C'est vous qui avez imité le waf-waf.
Sophie d'avant vous donne rendez-vous avec toute sa bande de copains. C'est Sophie le copain. Alors tentez votre chance.
Mais c'est pas moi.
Je sais pas si avec son
mais
chien.
C'est
Sophie.
Jamais moi. C'est vous. Arrêtez parce que moi Sophie elle va m'en vouloir. C'est Olivier qui faisait ça.
Non, c'est pas moi.
Mais arrêtez. Bah, non, ça c'est pas sympa.
Non, soyez honnête.
C'est Olivier qui faisait, qui était. Non, non.
Non, là, je suis jamais parti dans des briefs, mais là je suis prêt à le faire.
Non, non.
Non, non. Non, dis non. Non, c'est vous.
Non, c'est
moi. C'est moi. C'est moi. Ben je m'en vais.
Non.
Non, ça
c'est
pas vous. Non, mais je m'en vais. Non, là c'est
non. Non, on va. Non, là, monsieur Bobouk, ce n'est pas vous, c'est Pascal Prouet. D'ailleurs, Europe 1, en hommage au chien de Sophie d'avant, va être rebaptisé.
Oui. La maison de Toutou.
Voilà, la maison de Toutou, la maison du chien de Sophie d'avant. Bon, une rencontre qui n'aura pas lieu, c'est entre Céline Dion et Gégé. Oui, Gégé qui contactera la mauvaise personne, pas Céline Dion, c'est sûr.
Restez bien avec nous sur Europe 1. La suite de Pascal Prouet, vous, c'est dans moins d'une minute. On parle de la chanteuse Céline Dion qui pose.
Céline Dion,
c'est des saucisses. Hein.
C'est quelqu'un que je connais bien d'ailleurs.
Céline non, mais les Dion, c'est des saucisses.
Vivement Céline Dion dans l'émission Elle débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Pour vous, Céline, eh bien c'est Pascal qui résume notre relation, mes pensées en ce moment précis.
Si près de moi, et moi je ne sais pas.
Allez, allez.
Comment l'aimer?
11h, 13h.
Pascal Pro sur Europe 1.
Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente nuit et vous donne rendez-vous à 11h sur Europe 1.
Aujourd'hui, mercredi, Pascal Pro recevra le docteur Réginald Allouche pour son livre « Sucre, l'ennemi public numéro 1 ». On va parler du sucre et si vous souhaitez interagir ou poser une question, n'hésitez pas à contacter le standard d'Europe 1 01 80 20 39 21. Suivez le guide et on vous rappellera. 01 80 20 39 21, vous pouvez aussi le faire durant l'émission. La nuit se poursuit dans un instant avec la Libre Antenne. On va retrouver Valérie Darmon après un titre de 1980, une ballade signée The Corgis. C'est aussi leur plus grand succès. Voici Everybody's Gotta Learn Sometimes.
Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime.